Voilà, donc je vais poser rapidement une question à chacun des intervenants, le temps que vous prépariez les vôtres. D'abord, Esther, voilà, c'est une question peut-être qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs. Je me suis demandé pourquoi Lacan écrit « Nous n'avons que ça, l'équivoque, comme arme contre le symptôme ». Et après, tu le recites, cet équivoque pourrait libérer du symptôme. Je me suis demandé pourquoi contre le symptôme et libérer du symptôme, puisque dans ce séminaire Joyce et le symptôme, d'où tu extrais ces citations, avec Joyce, l'équivoque serait plutôt une arme contre le symptôme, celui de ses voies imposées. Elle l'aurait libéré du symptôme et pas du symptôme. Le symptôme, lui, qui serait la nomination au sens borroméen qu'il a construite, donc au-delà de l'Œdipe, hein, par justement le jeu de son écriture qu'il a élevé au rang d'un art, hein, avec la coupure, l'équivoque, les dislocations du sens. Voilà. Voilà, donc je suis toujours avec cette question, pourquoi est-ce qu'il écrit contre le symptôme, l'équivoque contre le symptôme et libéré du symptôme? Pour Pascal, alors est-ce que Pascal, vous pourriez reprendre, enfin, est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur la phrase? Le symptôme résulte de la coalescence entre les traces sonores qui ont été jouies dans la langue, en un seul mot, du sujet, et les premiers jouirs liés à la jouissance phallique étrangère au corps parasitaire pour le sujet. Pour moi, ça n'est pas de la même texture. Ce qui relève de la formation du symptôme chez l'enfant, vous repassez par là, et j'ai trouvé ça très intéressant, cette rencontre accidentelle entre les signifiants venus de l'autre et le corps de l'infance, au temps de la langue, et puis les premières jouissances liées au phallus hors corps. Voilà, si vous pouviez un peu me refaire ce point-là. Jean-Michel Arjour, vous dépliez très bien, hein, l'opération de l'équivoque quand elle tombe juste, hein, dans la cure. Vous ne ratez pas la responsabilité des psychanalystes, hein, et j'ai par rapport à cet acte de l'interprétation, et vous pointez, oui, et j'ai bien aimé votre précision sur l'interprétation qui relève de l'inconscient, hein, en tant que discours du maître, quand l'analyste se cantonne comme ça au déchiffrage du sens. Déchiffrage du sens au contraire de l'équivoque qui, elle, donc bascule de l'objet vers le dire. Un dire que vous situez bien de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire une vérité mi-dite, hein, pas toute, jusqu'à cet éclair du réel de la castration. Excusez-moi. Alors, si je les déroulais du côté de l'équivoque, du côté de l'acte, du côté du psychanalyste, du côté de la cure, et je trouve vraiment très, très, très bien décrit, déplié chez vous. Je me demande pourquoi vous êtes si noir dans votre conclusion, côté analysant. Certes, les sujets repartent aussi vite dans le rêve qui endort, mais quand même, on pourrait se dire alors, mais pourquoi, enfin, pourquoi tout ça, si c'est juste pour un éclair, est-ce que, il n'y aurait pas, par rapport à la psychanalyse lacanienne, quand même d'autres avantages à situer pour l'analysant la vie du côté du réel, hein. Et Karim, je reviens à ce moment du Babil, hein, chez le bébé, cette émission donc spontanée du petit sujet à laquelle la mère fait écho. Ma question est un peu en marge de ton travail. Bon. donc ce Babil où ensuite la communication et sa compréhension se feront progressivement. Hein, ce passage entre les deux, entre le filtre, par le filtre de la langue, hein, et à l'occasion de ce passage, bien sûr, hein, c'est-à-dire entre le Babil et, l'entrée dans les signifiants, il y a la perte, hein, il y a de la perte de jouissance et perte de sens, puisque toute la jouissance du Babil n'est pas soustraite, hein, dans ce passage à la langue articulée. Il reste des traces actives, hein, les uns de la jouissance de la langue. Alors, je voulais vous poser une question, Karine. Enfin, je me suis posé la question. Est-ce qu'on pourrait dire que la musique tire justement de ces restes-là de la langue son côté surprise unique, hein, à chaque fois qu'on est touché par une musique, même si c'est toujours le même morceau et avec toujours la même interprétation, ça nous fait toujours comme ça un moment de jouissance, hein, quelque chose de, qui se répète, enfin qui se, à chaque fois est inédite. Et puis aussi ce côté de convocation, hein, c'est-à-dire où ça fait chez nous un appel, ben, que ce soit aux émotions, aux souvenirs, voilà. Est-ce que ça serait dans ces traces-là aussi de la langue? Voilà. Je sais pas, je regarde avant de donner la parole donc à Esther pour quelques mots. Et puis je vois les premiers intervenants qui ont levé la main. Esther?
Oui, bon, ben, c'est une sacrée question quand même. Parce que c'est vrai que on pourrait penser que quand il parle de, que ça pourrait libérer, ce serait plutôt de l'ordre des symptômes. Oui. Quand il parle justement de cette phrase autour du contrôle et de ces jeunes analystes qu'il reçoit. Et que ça pourrait, dans une deuxième partie pour eux, libérer du symptôme. Et non, en effet, il écrit bien du symptôme. Ça pourrait donc, dans un premier cas, l'équivoque serait arme contre le symptôme. Et ensuite, dans ce qu'il ajoute, c'est que cette deuxième étape consisterait à jouer de cet équivoque qui pourrait libérer du symptôme. Enfin, bon, il y a là cette question symptôme et symptôme, mais quand même, libérer, ou ce qu'il peut dire par que c'est une arme, ça se rejoint en quelque sorte. Il y a quelque chose là qui s'assouplit, ou qui se redéfinit autrement, hein, que ce soit d'ailleurs par rapport aux symptômes comme aux symptômes, il y a un pas de côté qui est fait. Moi, c'est comme ça que je l'entends, parce que c'est vrai que parfois, il passe de ce terme symptôme à symptôme, et c'est pas toujours très clair, étant donné que le symptôme, c'est ce qui noue les trois ronds, cette espèce de long boudin là, qui noue les trois ronds qui sont dénoués. Les symptômes, c'est pas ça. On le voit dans le schéma de RSI, je crois qu'il y a où il y a les trois cercles. Il y a toute une partie à droite qui est l'inconscient. Les symptômes, je crois que c'est de l'autre côté des trois ronds. Ils se rejoignent à un moment. Enfin bon, c'est vrai que ce côté symptôme et symptôme, il ne les situe pas de la même façon sur ces schémas. Et en même temps, parfois, dans le texte ou dans ce qu'il peut en dire, ça, j'ai l'impression que c'est pas toujours clair. Qu'on passe d'un terme à l'autre. Donc voilà, c'est ce que je peux dire comme ça ce soir.
Ok. Merci, bon. Merci Esther. Pascal ?
Oui, alors, le symptôme en tant qu'événement de corps. Hein, oui. C'est pourquoi je suis revenue à ce passage dans la conférence de Genève pour rendre compte après dans ce qui pouvait... être en cause, enfin dans l'interprétation, mais plus chez un enfant, chez un adulte, enfin tout aussi bien, c'est que dans la conférence de Genève, Lacan nous parle finalement du mode de formation du symptôme dans la prime enfance, hein, c'est-à-dire comment il se constitue, et alors la coalescence finalement, on pourrait dire, pour le dire autrement que je ne l'ai dit, c'est une coalescence entre l'effet du trauma de la langue, qui vient de l'autre, hein, qui vient du dire, qui va en quelque sorte affecter l'infance avec des mots, des signifiants qui n'ont pas encore de sens pour lui, qui ne parlent pas. Et quoi est l'essence donc entre les effets du trauma de la langue dans chez l'infance et puis un peu plus tard, hein, d'ailleurs dans ce texte il reprend l'exemple du petit Hans, ce qui va venir comme trauma du sexuel, hein, avec donc cette angoisse chez Hans qui est liée à ses premiers jouirs qu'il n'arrive pas encore à intégrer, hein, en tant que c'est une jouissance qui ne vient pas du corps, enfin qui est en quelque sorte extérieure, hein, à son corps, qui n'est pas, voilà, et qui est étrangère. Il dit parasitaire au sujet. Ces deux traumas qui affectent le sujet rentrent en coalescence pour former le symptôme. Voilà pourquoi j'ai repris la conférence de Genève, mais surtout le but c'était d'essayer de voir comment dans un symptôme hystérique, j'ai repris le cas de Freud, au-delà de la métaphore, quand bien même une métaphore pourrait être déchiffrée comme elle dans ce cas-là, elle a pu l'être, pour autant, il y a cette question de la jouissance liée à l'impact, hein, à la percussion qu'a eu le signifiant sur le corps de cette femme, hein, le signifiant tant qu'il est cause de la jouissance dans son corps de ce signifiant qu'il a en quelque sorte atteinte. Voilà.
Bien. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Jean-Michel Arzu. Jean-Michel Arzu.
Voilà. J'ai une coupure. J'ai une coupure. Là, il a fallu que j'aille régler la Freebox. Vous m'entendez là ?
Oui, très bien.
D'accord. Ok. Du coup, j'ai pas très bien entendu toute la question. Enfin, j'ai l'impression quand même d'en avoir saisi le sens. Moi, ce qui m'a intéressé dans la relecture des textes, que ce soit les textes plus anciens, la direction de la cure, la maîtrise, ou alors radiophonie et télévision. C'était vraiment l'abord logique de Lacan aussi par rapport aussi à cette question du rapport entre l'inconscient et l'interprétation. Donc c'est le fil moi que j'ai suivi par rapport à la question du dire de la vérité. Alors c'est vrai qu'il en parle comme ça, mais c'est plutôt la question de la limite. De la vérité, hein. Et moi ce que j'ai plutôt entendu c'est comment on pouvait avoir un aperçu de cette limite là, de cette frontière ou de cette zone là du non-rapport sexuel. Quant à, alors c'est là que j'ai pas tout à fait entendu la question, mais peut-être sur la fin de l'exposé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé la journée de samedi, justement, parce qu'on a reparlé aussi de l'inconscient, de cette maladie mentale qui est l'inconscient, de la façon dont Lacan dit aussi qu'on se réveille jamais vraiment. Donc, c'est vrai, je trouve que ça pose la question de, finalement, cet aperçu, effectivement, qu'on peut avoir sur ce réel. C'est pas quelque chose peut-être qu'on peut vraiment déplier, faire valoir, mais que c'est vraiment un instant. Il parle d'un éclair, mais que peut-être un aperçu, ça change tout le reste. Hein. C'était un peu l'idée que j'avais. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question parce que j'ai oui. pas tout oui. entendu. Mais bon.
D'accord. Merci Jean-Michel Arzu. Karim Parketti.
Oui, merci Claire pour ta question. Si je la comprends bien, ta question porte sur qu'est-ce que c'est que la jouissance musicale. Alors, après ce passage à la langue articulée qui s'accompagne d'une perte de jouissance, Est-ce que la musique, ce serait une possibilité de passage en sens inverse et de retrouver une jouissance de bébé? Bon. Deux remarques. D'abord, je crois qu'on n'a pas encore craqué le code de la jouissance musicale. Sinon, ce serait plus facile d'en produire en quelque sorte de la musique, ou en tout cas d'être assuré de la réussite d'une œuvre pour les compositeurs comme pour les interprètes, si on savait quels étaient les ressorts exacts de ce qui fait que les gens y retournent. Le deuxième remarque, c'est que on peut, du coup, vu qu'on n'a pas craqué ce code-là, faire que des hypothèses sur qu'est-ce qui fait fonctionner cette jouissance musicale. Et je dois dire que je ne suis pas convaincu par ton hypothèse des retrouvailles avec l'état de bébé. Si on postule qu'il y a une perte, je crois que cette perte, elle est irrémédiable, en fait. Alors, on peut par contre rêver, on peut avoir l'espoir. Enfin, je ne sais pas, ce serait à creuser, c'est délicat. Hein. La façon dont je l'approcherais, du coup, c'est avec les repères lacaniens de la jouissance phallique, la jouissance du sens et la jouissance autre. J'ai évoqué dans mon exposé deux spécificités de la musique, à savoir l'absence de signification. Impossible de dire « fais-moi un café » avec des notes de musique. Et puis, ou quelque chose de l'ordre de la signification. Et aussi la promotion de l'ego. On aime telle interprétation de tel interprète. Enfin, dans notre culture, je ne dis pas que ça a été tout le temps comme ça, ni que c'est en tout lieu comme ça. Mais actuellement, il y a quelque chose de très fort qu'on peut constater aussi dans les phénomènes d'identification en groupe. J'écoute telle musique, tel type de musique, je m'y reconnais, spécialement à l'adolescence. Moi, je suis plutôt rap, moi, je suis plutôt hard rock, moi, je suis plutôt, etc., pop, ou que sais-je. Alors, l'absence de signification, ça irait plutôt du côté de la jouissance autre, parce que, effectivement, il n'y a plus de texte. Alors, à part dans les chansons, mais même dans les chansons, le texte est... il acquiert une autre qualité. Il acquiert une qualité sonore aussi, une qualité répétitive, parfois au point d'être désincarné de sens et de signification. Mais juste, alors pas le babil, mais quelque chose... du sonore, du côté peut-être de la percussion, des choses qui tiennent comme ça dans le temps, de l'alarme, sur une voyelle prolongée.
D'accord.
Et côté, par rapport à l'ego, c'est plutôt côté jouissance phallique, évidemment. On se reconnaît, enfin, c'est tout à fait l'article de Freud sur la psychologie des masses. On a une identification collective, on s'identifie au père, aux semblables qui écoutent la même musique, et il y a derrière un idéal du moi qui soutient chacune de ces identifications collectives. Quant à la jouissance du sens, c'est peut-être le point le plus difficile à approcher. Peut-être qu'il y aurait quelque chose, une résonance avec l'humeur du moment. Je ne sais pas, là je l'ouvre au débat.
Bon, merci beaucoup Karim Berkati. On va donner la parole d'abord en tête de Maurice Marc Strauss. Marc, est-ce que...
Oui, on m'entend.
Bonsoir, oui.
Merci d'abord aux quatre intervenants. Vraiment intéressant le tout. Alors, rapidement, une question à chacun. Esther, j'ai bien aimé d'abord le rappel que la poésie n'était pas nécessairement fleur bleue. et que les mots pouvaient porter, trancher. Alors, une question sur une formule de Lacan, c'est un peu latéral par rapport à l'exposé, c'est même le tout début qui m'y a fait penser, la toute fin. Alors, quand Lacan dit « je ne prends personne en analyse dont le désir ne soit décidé », comment tu l'entends cette phrase ? Qu'est-ce que c'est qu'un désir décidé ? J'ai une question qui m'est venue parce que tu parlais du forçage opéré par les méchants, les psychothérapeutes, à côté des psychanalystes, nous, qui nous soumettions au discours du patient. Une entière soumission, c'est une formule de Lacan. Mais en même temps, désir décidé, est-ce qu'il n'y a pas dans tout début d'analyse, et est-ce qu'il faut parler de première interprétation, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une mise à l'épreuve du sujet ? D'ailleurs, la patiente pose, celle dont tu as parlé, pose très bien la question. Est-ce que j'enlève les couches ? Ben, il faut se décider, oui ou non. Pascal Leray, oui, c'est impeccable. Il y a un truc qui m'a fait un peu rire, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Le symptôme, ça résiste. C'est quand même amusant quand on se rappelle d'un Lacan qui disait « il n'y a de résistance que du psychanalyste ». Alors, est-ce que c'est un Lacan qui, avec l'expérience, a appris à en rabattre, il a appris la modestie, ou est-ce que c'est la même chose ? Moi, je pense que c'est plutôt la modestie, mais tu me diras ce que tu en penses. Alors, ma question porte vraiment sur le cas dont tu as parlé de Freud. Son mari lui balance une saloperie, elle l'éprouve comme une humiliation, une claque, une humiliation cuisante, ça se dit dans la langue, et voilà, elle a été humiliée, tu appelles ça jouissance. C'est pas que je sois contre, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Jean-Michel, j'ai adoré ta phrase, il y a beaucoup de choses, mais cette phrase-là, « notre parole n'est pas laissée à elle-même ». Très joli, je trouve, et j'aimerais que tu la développes un peu. En même temps que je voulais te poser la question que tu as posée Claire, moi, effectivement, c'est très joli, très joliment formulé aussi. On sait qu'on s'est réveillé au moins une fois, ne serait-ce qu'un instant. Alors, on n'y pense quand même pas tout le temps à ça, à ce réveil. Alors, est-ce que ça déplace le sujet ? Ou est-ce qu'on s'en rappelle à l'occasion ? C'est vrai, il y a quelque chose d'absolument radicalement convaincant dans cette formule, et en même temps, comment lui donner un peu de chair. Voilà, c'est la preuve. Et dernière question, à Karine, là c'est une anecdote, je bavardais sur un trottoir de la rue des Écoles avec Stanislas Dehaene, tout le monde sait que c'est un grand méchant, un neuropsychologue qui participe au ministère, à je ne sais quelle commission, mais c'est un type charmant et intelligent. Et donc, on parlait justement de l'apprentissage du langage par les enfants. Et lui-même évoquait l'idée d'un bain de langage dans lequel, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est aux musiciens que je m'adresse. Je veux savoir ce que tu penses de cette anecdote. Et je dis, mais à votre avis, dans ce bain de langage, dans ce bain sonore, comment est-ce que l'enfant arrive à distinguer les mots ? Comment est-ce que des mots se découpent ? Alors, il m'a répondu surpris, ah, c'est une question intéressante, ça voulait dire qu'il ne s'était jamais posé. Et du coup, il a réfléchi, et il m'a dit, je pense que ce sont les triplés de phonèmes. Il faut trois phonèmes qui se répètent régulièrement, c'est comme ça que se fait la construction. J'aimerais savoir ce que tu penses de cette histoire de triplés, dont on sait l'importance du 3 chez Lacan. Voilà, merci.
Merci Marc. Avant peut-être que nos intervenants répondent, on va prendre la question d'autres personnes. Louis Siskovitch et Maria Velissaropoulos. Louis Siskovitch.
Oui, merci à vous tous, à tous les intervenants pour ces exposés riches. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais faire une remarque qui est aussi une question commune à tous, mais je commence tout d'abord par une petite remarque qui est secondaire à l'exposé d'Esther, mais ça donne l'opportunité de parler même si c'est rapidement de ça, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opposition classique qu'on fait. L'interprétation, c'est pour la névrose, pas d'interprétation pour la psychose. Je crois qu'il faudrait qu'on examine sérieusement cette question. Parce que c'est vrai, il y a une dimension d'interprétation déjà là, dans la psychose. Mais pourquoi les sujets psychotiques, ils viennent à l'analyste? Parce qu'il y a quelque chose dans leur interprétation que ça n'a pas suffi. Et il faudrait examiner les modalités de l'interprétation de l'analyste. C'est certain qu'elles sont les mêmes, mais il y a une interprétation dans la psychose. Ça, c'est certain. Et même déjà Freud le disait, il faut se placer sur le terrain du délire. Se placer sur le terrain du délire donne une indication d'une interprétation possible dans la psychose. Mais bon, ce n'est pas l'essentiel de son exposé, ce sont des choses pour continuer. Maintenant, le point commun à tous les exposés. Je trouve qu'avec l'interprétation, il y a énormément de citations possibles de Lacan qui ne sont pas homogènes. Il y a une définition, celle que dit Jean-Michel Arsure, qui permet d'englober un certain nombre de choses avec un point de perspective. Notre pratique de l'interprétation, dit Lacan, vous l'évoquez, elle concerne le dire. Donc, il y a l'interprétation comme moyen et il y a la visée, la finalité de l'interprétation. Donc, avec cette formulation, ça englobe un certain nombre de, disons, ça donne les coordonnées de l'interprétation. Maintenant, si on utilise, on prend la formule, comme on fait Esther et comme a fait Pascal Loret. Elles ont raison de prendre la formulation « l'équivoque, seule arme contre le symptôme ». Cette formulation ne permet pas, me semble-t-il, aborder l'ensemble de la conception de Lacan concernant l'interprétation. Puisque, avec cette idée, on a l'interprétation comme moyen, c'est-à-dire l'équivoque, mais on a la finalité. Si on a une interprétation équivoque, on touche la finalité. Et alors, comment on met en parallèle ça avec l'idée que Lacan, il dit par ailleurs, tardivement même, tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons, ça veut dire que ce n'est pas uniquement l'équivoque. D'une part, ça c'est d'une part, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et ça c'est Karim Barkati qui l'a rappelé à la fin, peut-être il pourra le développer. Qu'est-ce qu'on fait de la pratique de la coupure? Puisque l'équivoque, ce n'est pas la coupure. Mmh. Et Lacan, puisque Pascal, tu évoques la coalescence, Lacan évoque dans le séminaire d'un autre à l'autre que ce qui permet l'entrée en analyse, ce qu'évoque Marc, ce qui permet l'entrée en analyse, c'est la pratique de la coupure. Il le dit très nettement. C'est ce qui permet de séparer la coalescence entre la structure et le sujet supposé savoir. Ça ne se fait pas sans la coupure de l'analyste. Donc, au fond, ma question porte sur la question de la coupure et finalement aussi comment on peut conjoindre l'idée de l'équivoque.
Oui, merci. Merci, Louis. Oui, s'il vous plaît. Il y a encore des questions et pour que les intervenants aient le temps de répondre. Encore donc des questions de Maria Velissaropoulos.
Oui, est-ce qu'on m'entend?
Oui, très bien, très bien.
Bon, je voulais revenir sur sur quoi le dernier intervenant est venu en disant la coupure interprétative. Et vraiment, du point de vue clinique, et comment faire pour que cette coupure, justement, elle a toujours l'air de faire sens. Vous avez des patients qui vous disent « Ah, vous m'avez coupé là, donc qu'est-ce que j'ai dit qui vous a fait que vous me coupiez là ?» Alors, c'est comme ça qu'il m'a semblé entendre la coupure interprétative. Et comment faisons-nous, justement, pour que la coupure fasse autre chose que sens ?
D'accord, merci beaucoup. Avant de prendre la dernière question, peut-être Esther, est-ce que tu... Enfin, la dernière question. Non, il y a d'autres questions qui peuvent venir. Hein, c'est... Mais Esther, est-ce que tu es d'accord pour commencer
Par rapport à ce que relevait Marc.
Oui.
De recevoir qu'il ne prenait que des personnes dont le désir soit décidé, Lacan. Bah écoutez, moi je ne suis pas Lacan. Hein. Donc je me débrouille. Mais voilà, les patients que je reçois, il y a un peu de tout. Hein. Certains ont un désir, d'autres, bon, ils ont essayé plusieurs choses, ils viennent là. Parfois même repartent. Quand je faisais référence à d'autres styles de thérapeutes. Et puis reviennent parce qu'ils ne sont pas contents, ça n'a pas abouti comme ils souhaitaient. Voilà, bon, ben, Lacan avait peut-être cette chance d'avoir de ne prendre que des patients qui ont un désir fort décidé. Bon. Et, par contre, ce que je peux relever, c'est que certains, en effet, vont essayer plusieurs types de qu'ils appellent pour eux, ils sont pas trop orientés quoi, par rapport à la psychanalyse, donc ils viennent là, bon, ils ont essayé d'autres choses, mais il y a, justement ça peut accrocher par rapport à cette question notamment de l'écoute, de la coupure et de l'interprétation qui vient là creuser quelque chose qui n'y a pas ailleurs. Et peut-être que pour certains qui ne supporteraient pas le peut-être savoir quelque chose d'un point d'horreur, ne peuvent pas poursuivre. Enfin, c'est comme ça que moi, l'expérience que j'ai, c'est, je peux en dire quelque chose comme ça.
Pascal ?
Oui, alors, oui, je vais répondre à Marc par rapport à ces deux questions. La première, ce qui résiste dans le symptôme. Le symptôme, ça résiste, il dit, donc c'est en 1975 dans les conférences nord-américaines. Bon, il est, je pense effectivement qu'il a le recul et il en est à un moment de son élaboration où il a pris toute la mesure de l'irréductibilité du symptôme, hein, c'est-à-dire ce qui est sa fixation, ce qui est vraiment au cœur même de ce que le symptôme présente comme fondamental. Et que ça résiste, de fait, mais que la résistance que tu évoques de l'analyste, effectivement, je pense qu'il la pointe aussi, puisqu'il dit qu'il ne s'agit pas de glisser dessus, c'est-à-dire qu'il s'agit de ce que j'ai essayé de développer un peu, comment finalement l'interprétation pouvait agir par la question de sa résonance, parce qu'il est beaucoup question dans ce chapitre des conférences nord-américaines de ce qui consonne avec l'inconscient à partir des marques que le signifiant a laissées dans leur sens de la langue, justement. Voilà. Donc, c'est peut-être une façon de dire il s'adresse aussi aux analystes. Aux États-Unis, donc, peut-être leur dire qu'il y a quelque chose là qu'il faut peut-être prendre en compte et qu'ils n'ont pas, eux, l'habitude d'entendre. Voilà. Après, pourquoi, oui, ta question sur, tu voudrais que j'explique en quoi ce qui, chez cette femme, pourrait être une jouissance dans ce qui a fait son symptôme de conversion. Ben, écoute, je crois que c'est... Enfin, d'abord, même Freud lui-même a évoqué ce que je rappelais, qu'il y avait dans le symptôme, pas seulement le retour, que ça symbolise quelque chose du côté de ce qui est refoulé, du côté de l'idée, de la pensée refoulée, mais qu'il y avait aussi la satisfaction substitutive. Bon, on peut peut-être traduire satisfaction substitutive par jouissance, c'est une hypothèse. Mais à la lumière de l'enseignement de Lacan, dans le symptôme hystérique de conversion, on retrouvera effectivement cette part de ce qui est de l'ordre de la vérité, pas toutes, évidemment, pas toutes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'entériner comme telle, pas toutes, parce qu'elle touche au réel et que ce réel, c'est le réel de ce qu'il y a dans le symptôme et qui, dans le symptôme hystérique, finalement, constitue ce qui est venu, puisque là, elle, c'est comme un coup reçu en plein visage de la part du mari. On voit bien que c'est quand même quelque chose qui a percuté son corps et qui a pris cette forme substitutive par le coup sur la joue. Mais si on lit le texte de Freud, d'ailleurs, c'est assez clair. Freud remarque lui-même l'élocution, parce qu'après avoir finalement que la douleur est cédée, le symptôme revient. Et puis, à la suite de ça, il y en a d'autres symptômes qui reviennent. Et il remarque, Freud, qu'il y a toujours, la délocution, toujours, qui sont des expressions comme coup au cœur, coup au visage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui insiste du côté d'une. Qui se dit, en tout cas, de comment le corps a été marqué. Et comment le corps a été marqué, ça, je pense qu'on peut le rapporter à la question de ce qui se jouit dans le corps, et que, y compris dans la métaphore, il y a effectivement une métaphore de la jouissance. Il faut pouvoir effectivement, dans l'interprétation, permettre au sujet de l'entendre comme effet du signifiant. Voilà.
Merci. Je ne sais pas
si j'ai bien répondu, mais bon, voilà.
Merci, Pascal. Jean-Michel Arzur.
Oui, alors par rapport à la question de Marc, et puis aussi pour répondre en partie à celle de Louis, c'est vrai que ce qui m'a d'abord interrogé, c'est le titre de la soirée, c'est notre pratique de l'interprétation. Oui. C'est vrai que j'ai vraiment suivi le fil de, comme me dit Louis, les coordonnées de l'interprétation. C'est ça qui m'a intéressé dans cette relecture que j'ai faite. Et donc, par rapport au fait que la parole ne soit pas laissée à elle-même, enfin, Lacan le dit à propos de la répétition. Effectivement, à partir du moment où on considère que l'inconscient interprète dans les formations de l'inconscient, c'est indépendamment du psychanalyste. La répétition, elle fait rage pour n'importe quel sujet, indépendamment du rapport à l'analyse. Donc, ça montre bien, effectivement, qu'on ne peut pas se cantonner à être lecteur ou à écouter l'inconscient ou à le faire, ou juste à le. Enfin, juste, ce qui est déjà pas mal des fois. Hein, faire advenir, en tout cas pour un analysant, un rapport à l'inconscient, mais qu'il faut s'y impliquer, hein, avec l'idée qu'a Lacan aussi du psychanalyste comme complément de l'inconscient. Donc, pas laisser à elle-même, moi il me semble que c'est quelle place prend l'analyste finalement dans le dispositif analytique. Et toute la difficulté, je trouve, en relisant ces textes, et toute la difficulté, c'est de justement suivre ce que dit Lacan, c'est de ne satisfaire aucune demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à satisfaire la moindre demande ou à incarner un objet de satisfaction pour l'analysant. Mais là où, en relisant les textes, je me suis aperçu aussi qu'à soutenir seulement le discours de l'inconscient, on pouvait satisfaire aussi. Hein, satisfaire aussi. L'analysant. Donc, quelle place y reste finalement ? Quelle place à prendre ? Donc c'est ce fil logique qui m'est apparu, parce que c'est vrai que j'ai quasiment pas parlé d'équivoque. Hein. Je ne me suis pas tellement appuyé là-dessus, mais peut-être pour trouver le chemin par lequel il passe pour arriver à l'équivoque, à quelque chose effectivement qui serait peut-être plus consistant, comme dit Marc. Parce que voilà, ce réveil, alors, bon, c'est une conclusion, mais qui n'en est pas une, puisque ça m'a fait travailler beaucoup cette journée sur les rêves et les cauchemars. Mais c'est vrai que ce réveil, ça, si tant est qu'il y en ait un, parce que quand à lire Lacan, on n'est pas sûr certain, Mais ce serait quoi ? Ce serait pas suffisant, effectivement, peut-être, de pouvoir attester du franchissement de cette limite, mais qu'il y a quelque chose de peut-être plus consistant à faire valoir. Et il me semble, alors moi, c'est un peu ma lecture, et c'est pour répondre aussi, ben, j'essaye à Louis, mais il me semble quand même, dans ce que j'ai cru comprendre, c'est dans Radiophonie, Lacan, justement par rapport à plaider le faux, avec le faux, le falsus, ce qui choix. Donc il amène effectivement la question de cet objet ou ce qui est à la limite de la vérité. Mais ce qu'il dit, c'est que le symptôme, c'est ce falsus. Et je me suis dit quand même, le symptôme, c'est le falsus. L'analyste aussi est symptôme. Je me suis dit quand même que dans cette place de l'analyste, il y a quelque chose, en tout cas, qui doit faire cette consistance-là d'objet que l'analysant repère et qui est cet objet-là, finalement, dont il va se séparer. Donc, je pense que là où on peut donner un peu de chair, c'est peut-être du côté de ce symptôme-là qui se délimite aussi en même temps, effectivement, que ça tombe à côté. D'accord. C'est un peu comme ça que j'ai compris les choses. Je crois que j'ai répondu à peu près.
Merci, Jean-Michel. Karim, et après, on aura le temps d'écouter une dernière question. Karim ?
Oui. Donc, je vais commencer par essayer de répondre à Marc Strauss.
Merci pour. D'accord.
Les triplets de phonèmes. C'est séduisant comme idée, les triplets. Là aussi, il me semble qu'on n'a pas craqué le code de comment est-ce que. Je ne suis pas au fait des dernières découvertes de la biologie, mais il me semble que c'est pas tout à fait cerné, et évidemment si ça se situe quelque part au niveau des neurones. Enfin, une fois que l'oreille interne fait son boulot et externe, c'est là qu'une appréhension du langage peut se faire. Du coup, par contre, ce que je sais, c'est que du côté de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des simulations informatiques, on a essayé aussi de faire de la détection, de la reconnaissance de langage, et aujourd'hui, nous avons quasiment à disposition dans nos smartphones des applications qui reconnaissent ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement capables de reconnaître les phonèmes. Donc, par ce biais-là, détourner de l'informatique plutôt que d'entrer directement dans un cerveau, on arrive à se faire une idée peut-être de comment ça peut se passer dans un cerveau. Mais c'est une hypothèse, on n'est pas sûr. On fait en effet des analyses spectrales et des analyses d'amplitude. Et à partir de là, enfin, ce sont des choses que l'oreille reconnaît très, très bien. Et d'ailleurs, le cerveau va se spécialiser, puisque au départ, un bébé peut apprendre toutes les langues. Et au fur et à mesure, il ne va plus être capable de distinguer certains sons. Et donc pas non plus de les produire. Donc les triplets, je suis pas tout à fait convaincu. Sur la question de Wisiskovic, oui, pas homogène les définitions de l'interprétation de Lacan, et il y en a beaucoup. On peut faire plusieurs hypothèses sur pourquoi c'est pas homogène, des variations dans l'enseignement, ou alors une polysémie. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas penser une interprétation freudienne que Lacan aurait adoptée au départ, et puis une interprétation plus proprement lacanienne à la fin, si on fait une dichotomie entre interprétation déchiffrage qui nous ramène au signifiant et à la question du désir, et puis après une autre interprétation plus sur ce qu'évoquait Jean-Michel Arzur de cette limite à la vérité, où on touche plus à quelque chose de réel et une interprétation qui se mesure que par ses effets. Concernant la coupure, oui, j'aime bien la coupure parce que elle a cette plasticité-là, je trouve, du dire silencieux, qui marque quelque chose, donc par rapport à l'improvisation, qui est très corrélée au temps. Quelque chose vient d'être dit, en effet, on sanctionne ça. Il y a cette conscience-là qui prend une importance ou pas après dans ses effets, c'est-à-dire que c'est l'analysant qui continue d'analyser là pourquoi il y a eu cette conscience à ce moment-là. Par rapport à la question de Maria Velissaropoulos, j'essaye d'aller vite, hein, ce que j'ai dit, comment faire qu'elle fasse autre chose que sens, la coupure interprétative. On rejoint un petit peu cette question de la polysémie de l'interprétation. Et je crois qu'on a eu des débuts de réponses, ou même des réponses assez complètes dans les autres exposés. Par exemple, la jouissance du sens qui a été évoquée dans l'interprétation comme une nécessité d'abord dans l'analyse. C'est avec une jouissance du sens que quelque chose va pouvoir bouger. Dans un premier temps, on entend quelque chose, on rejoint là l'interprétation des chiffrages, il me semble. Et puis, après, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'un acte qui vient pointer du doigt, comme disait Jean-Michel Arzur, la limite à la vérité. Je m'arrête là.
Merci. Alors, une dernière question d'Anis Tariki. Est-ce que...
J'ai Claire, vous m'entendez? Tu m'entends? Alors,
oui.
Oui, je n'ai pas répondu à Louis Fiskovitch.
Oui, moi non plus.
Ah, alors peut-être on peut prendre la question d'Anis Tariki et puis ensuite on...
Claire, je n'ai pas la fonction main. Moi, je t'ai envoyé un petit mot pour te demander si je pouvais poser une question.
Qu'est-ce que tu dis, Patrick?
Comme animateur, je n'ai pas la fonction lever la main.
Ah, tu as une question, d'accord.
J'ai une remarque.
D'accord, donc on prend, bon, on a commencé avec 10 minutes de retard, on peut se donner 10 minutes de, voilà, encore. Donc une question d'Anis Tariki et ensuite de Patrick Barillot.
Bon, alors dans toute cette réflexion très intéressante sur l'interprétation, moi j'aimerais mettre l'accent sur le lien de l'interprétation au désir, c'est-à-dire à l'objet, à cause du désir qui est la visée de la fin de cure. Alors, il a été beaucoup question, je suis tout à fait d'accord, bien entendu, l'interprétation porte sur les signifiants, sur les équivoques signifiantes. Elle vise à faire céder la jouissance du symptôme, mais aussi la jouissance des objets du fantasme, et que pour conduire l'analysant, justement, en fin de cure, à être divisé par l'objet du désir qui le cause. Je pense que l'analyste, le maillement de l'interprétation dans la cure, justement, varie en fonction du moment de la cure. Il me semble que dans le temps où l'analyse, le temps de l'analyse qui dure d'ailleurs, c'est un temps long, où il s'agit de permettre à l'analysant de déchiffrer tous les signifiants du savoir inconscient qui sont le sien, il me semble que peut-être l'interprétation est davantage prévalente en tant que portant sur l'équivoque. Et qu'à partir du virage dans la cure, qu'on appelle la chute du sujet supposé savoir, qui ouvre un autre champ de travail dans la cure, c'est-à-dire l'interprétation va porter sur l'objet. C'est-à-dire elle va faire céder la jouissance des objets du fantasme et elle va permettre justement d'arriver à ce point de coupure qu'évoquait Louis, hein, qui est le rapport du sujet à l'objet. Et moi, je situerais assez bien, d'ailleurs, le lien de l'interprétation et de la coupure à cet endroit-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas une fonction de coupure au niveau du savoir inconscient. Mais en tout cas, pour ce qui est du rapport à l'objet en fin de cure, il me semble que l'interprétation va viser à ce que le sujet puisse se séparer de cet objet dont Lacan dit, d'ailleurs, que l'objet A, il est dans un rapport de coupure interne au champ du sujet. Et que c'est parce que cet objet peut être fantasmé comme étant perdu, hein, qu'il va causer le désir. Donc moi, l'accent que je voulais mettre, c'est sur le lien de l'interprétation, pas seulement équivoque signifiante, pas seulement au niveau de la jouissance du symptôme, mais l'importance de l'interprétation par rapport à l'objet.
C'est-à-dire que je dis. D'accord, merci. Patrick Barillot.
Oui, c'est une remarque surtout pour dire que je crois que ça s'inscrit dans la série des remarques précédentes. je n'ai pas le sentiment que l'équivoque dont il fait, dont on a fait beaucoup de cas et à partir dont il l'use comme pour parler d'interprétation, l'équivoque, ce soit l'alpha et l'oméga de l'interprétation analytique quand même. Et d'ailleurs, sur ce point, il y a plusieurs témoignages de gens qui ont été en analyse avec Lacan qui disent qu'il n'équivoquait pas à tout bout de champ.
Bien sûr.
Alors, ce qui va dans ce sens-là, c'est le texte que Esther a cité, qui est donc le premier chapitre sur le symptôme, où il parle, à propos des analysants qui venaient en contrôle avec lui, des deux étapes. Il dit, il y a deux étapes dans l'analyse. Et donc, il dit, la première, où les gens font n'importe quoi, enfin, conduisent comme dire un rhinocéros, et il dit, ce que tu n'as pas dit, Esther, si je leur donne toujours raison. Et moi, ça m'a toujours intrigué, cette façon de dire, je leur donne toujours raison. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour leur dire, vous avez eu raison, vous avez eu tort. Et après, c'est là qu'il parle d'une autre possibilité d'interpréter, qui est l'équivoque. Et je pense que quand il dit que je donne tout, quand il dit que c'est pour une question de structure, parce que ce qui est visé là, c'est l'interprétation des chiffrages, l'interprétation qui touche à l'inconscient langage, et c'est qu'effectivement là, tous les coups sont permis, comme vous avez rappelé Louis, et que finalement tout ça n'est qu'élucubration sur un réel qu'on essaye de cerner. Que la deuxième étape sur l'équivoque aurait plus de facilité à toucher. Alors après, sur la question symptôme, dire que c'est écrit, c'est un séminaire, hein, donc c'est pas un écrit. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté, savoir, c'est vrai, si on prend ce qu'il dit comme l'équivoque qui viserait à Corman contre le symptôme, moi je ne comprends pas. En revanche, si on le dit contre le symptôme, là pour moi ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce que ça voudrait de viser le symptôme, c'est-à-dire de dénouer le nuage? C'est quand même un peu énigmatique. Voilà ma petite réflexion sur les choses.
Merci Patrick. Alors je crois qu'il y avait Esther qui voulait intervenir, Pascal. Il ne reste que...
Oui, non, mais juste pour dire par rapport à ce que relevait Louis Sizkovitch, que bien sûr, il n'y a pas que l'équivoque, ce ne serait pas la cerise sur le gâteau et toutes les autres interprétations seraient à jeter à la poubelle. Hein. Dans ses textes de 1953, là, dans les écrits où il évoque d'autres types d'interprétations, même après, on peut lire aussi dans des textes de Robert Fliss aussi ou d'autres, hein, qu'il y a bien sûr le silence dont on n'a pas parlé ce soir, un silence habité, un silence de tel ou tel type, bien sûr la coupure. Bon, moi, j'ai choisi l'équivoque parce que je suis assez attachée en ce moment dans mon travail au dernier séminaire de Lacan, aussi autour de la poésie. Bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Hein. Je suis peut-être un peu égoïste. Bon, c'était... Voilà, ça m'intéressait, voilà, toutes ces questions qui l'amènent dans l'insu ou dans le symptôme. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres types d'interprétations. Et en ce qui concerne cette question psychose-névrose, bon, c'est encore peut-être à creuser pour moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent quand même dans ce qu'on essaie de cerner ou de toucher ou de placer. Enfin, je... Bon, voilà, c'est...
Merci.
Voilà, c'est... Bon, je laisse...
Merci. Pascal, je crois.
Oui, oui, oui. C'était pour répondre à Louis et puis aussi à Annie Stariki. Voilà, bien sûr qu'il y a plusieurs modalités de l'interprétation. L'équivoque, c'est... Comment dirais-je? C'est un moyen, c'est pas... Bon, l'interprétation est un dire, hein, c'est ce que j'ai dit tout au long de mon texte. L'interprétation est un dire et elle a différents moyens pour faire agir ce dire. Si par exemple on prend l'interprétation par rapport à la question de l'objet A, ça c'était donc la remarque d'Annie Stariki. Là, effectivement, ça, le problème, c'est que dans un exposé qui doit durer en moyenne 10 minutes, il faut faire des choix. Donc, personnellement, j'ai fait le choix de l'interprétation par rapport aux symptômes. Mais il est évident que si ça avait été notre interprétation avec un temps d'exposé beaucoup plus long, ça aurait été absolument essentiel. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais absolument souhaité parler du dire de l'interprétation par rapport au dire de la demande, hein, qui traite de cette question-là et qui est essentiel dans le texte notamment de l'étourdi et qui effectivement est ce qui est résolutoire pour la fin de l'analyse et qui fait appel à des notions de topologie. Mais pour autant, même s'il y a, il y a la coupure, il y a le silence, il y a la scansion, si on remonte comme ça jusqu'au début, mais malgré tout, si l'équivoque n'est pas la seule façon d'interpréter, il n'y a pas que l'interprétation qui équivoque, il n'empêche qu'on la retrouve très souvent, et y compris jusque dans les derniers textes. Par exemple, j'ai ici le moment de conclure, où simplement ce passage très court, l'analyste tranche, ce qu'il dit est coupure, c'est-à-dire participe de l'écriture, à ceci près que pour lui, il équivoque sur l'orthographe. C'est tout à fait autre chose que la résonance, par exemple, hein, le sonore que j'ai un petit peu développé. Et c'est pour dire quand même, à différents moments de son élaboration, l'équivoque revient sous différentes formes. Et puis, il y a aussi le fait que quand même, ce qui est central dans un texte aussi important que l'étourdi, sur l'interprétation et le dire de l'interprétation par rapport au dire de la demande. Il revient très, très, très fort sur la question de l'équivoque avec ses trois dimensions. Hein. Il y a l'équivoque homophonique, l'équivoque grammatical et l'équivoque logique, dit-il, sans laquelle l'interprétation serait imbécile. C'est-à-dire si elle ne visait pas un réel, parce qu'il ne s'agit pas d'équivoquer à qui mieux. Hein. Voilà. Donc, je pense que l'équivoque, non, n'est pas simplement à un moment donné, elle est transversale. C'est un élément transversal d'une grande partie de son enseignement, si ce n'est pas tout son enseignement, à mon avis.
Bien, merci. Merci aux quatre intervenants. Merci à tout le monde. Et le séminaire école continue la semaine prochaine, jeudi 4 juin. Sur le thème plaque tournante et névrose, voilà, et où il y aura deux intervenants, Jean-Pierre Drapier et Dominique Marin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.